Alors, évidemment, il y avait à côté de la troupe alsacienne, existait également une troupe de comédie en langue française, qui était dirigée à l'époque par Daniel Michneau. Et à ce propos, d'ailleurs, justement à propos de Daniel Michneau, monsieur m'a donné tout à l'heure une petite carte, puisqu'il est en relation avec la famille de Daniel Michneau, où il est né le 7 juin prochain, donc c'était hier, il y aura 50 ans que mon père a nous a quittés. C'est donc les enfants qui écrivent ça. Donc Daniel Michneau qui était mort donc en 50 ans, le 7 juin donc 1961. Voilà. Et c'était un homme qui était... Moi, je l'ai aperçu une seule fois, parce qu'il a quitté Strasbourg, il était revenu après-guerre, mais il n'exerçait plus. C'est Antoine Bourbon qui a pris sa succession. Et Bourbon, d'ailleurs, avant-guerre, avait fait des émissions pour les enfants, des émissions enfantines. C'était l'oncle Paul. Il était d'ailleurs originaire de Biarritz. Il avait fait son service militaire à Strasbourg. Il avait été élève de Jouvet d'ailleurs avant son service militaire. Il avait déjà été élève de Jouvet. Et puis ensuite, il est venu à Strasbourg. Et là, il s'est beaucoup plu à Strasbourg. Et puis, il a commencé à prendre contact avec la radio. Et puis, on a commencé à lui confier des émissions. Il a également participé avec Michneau à certaines émissions, et après-guerre, il est revenu et a repris donc la direction des émissions dramatiques en français. Et alors, il y avait également des émissions poétiques, et là aussi, d'ailleurs, Daniel Michneau avait donné la place aussi à de nombreux poètes d'ici, donc, qui écrivaient en français. Et en plus, au programme de la radio figurait toute une série de chroniques et de causeries en français et en allemand. Et en allemand, puisque, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est que Radio Strasbourg a été le premier poste bilingue, en Europe, puisque en 1930, et... D'où aussi la colère de Goebbels, puisque tout se disait en allemand, donc on pouvait l'écouter en face. Et les annonces étaient faites en français et en allemand. Il y avait des chroniques de différents ordres, qui étaient soit en français, soit en allemand, ou les deux. Et puis il y avait des informations en langue allemande et des revues de presse en langue allemande. Donc tout était bilingue. Et d'ailleurs, les émissions, il y a encore une chose à dire, il y avait davantage d'émissions musicales que des émissions parlées. Le rapport était à peu près, je crois, 25 à 75. Les émissions parlées, et 25% et 75% d'émissions musicales, donc l'orchestre, retransmission d'autres, et beaucoup de programmes de disques. Évidemment. Et alors, ces chroniques, il y avait des chroniques donc en français, en allemand, sujet d'actualité, vie pratique, médecine, tradition, histoire, musique, science et bien entendu littérature. Et là, parmi les chroniqueurs littéraires, eh bien, il figurait à partir des années 35-36, un jeune professeur qui nous a relaté une de ses expériences, sa dernière expérience concernant sa chronique littéraire. Alors, voilà quelques extraits. Dans les années 30, jeune agrégé, j'étais professeur de lettres au lycée Fustel. Comme d'autres enseignants, j'avais accepté de faire quelques causeries au micro de Radio Strasbourg. Puisant dans mes lectures, je tâchais de trouver dans l'histoire littéraire des sujets capables d'intéresser les inconnus qui, pendant les après-midi de semaine, écoutaient le poste. Un sujet que j'ai squatté était celui des voyages littéraires qui entraînèrent sur les routes la plupart des grands auteurs de l'époque romantique. Et bien entendu, je recherchais et relatais volontiers leur passage par l'Alsace. Et tout naturellement, j'avais inscrit dans mon programme de causerie un récit de l'unique séjour strasbourgeois de Victor Hugo. Je pouvais donc raconter aux auditeurs de Radio Strasbourg comment, avec Juliette Rouet, il quitte Paris un jeudi par la chaise de poste, le moyen le plus rapide à l'époque, on roule jour et nuit, seuls les repas causant des arrêts, le vendredi soir on a dîné à Nancy, et le samedi avant le lever du jour, on passe les ports de Falsbourg. La voiture descend la côte de Saverne, traverse la plaine, et au cours de la matinée atteint la place d'Armes. Nos voyageurs s'installent à la Maison Rouge, et de cette fenêtre, ils voient un bâti où se construisent le tombeau et le monument de Kléber. Puis Hugo court à la cathédrale, monte à la plateforme, admire le paysage, appose date et signature, il visite ensuite Saint-Thomas et adresse à Paris le récit détaillé et pittoresque de ses découvertes et de ses impressions. Dès le lendemain matin, il franchit le Rhin et une postcoutche l'emmène par le pays de Bade en direction de Bâle. Tel est donc l'épisode dont j'avais tapé un récit aussi radiophonique que possible, poursuit le chroniqueur. Mais malheureusement, la date avait été fixée à l'avance, ma causerie n'a jamais eu lieu, car c'est le 2 septembre 1839 que Victor Hugo a débarqué à la Maison Rouge et qu'il a visité notre ville et ses monuments. Et 100 ans plus tard, le 2 septembre 1939, c'était la guerre. Donc la chronique n'a jamais été diffusée. Mais... Alors justement, je vais y venir. Mais finalement, la carrière radiophonique de ce jeune professeur ne s'est pas arrêtée entièrement, puisque... après la guerre, il avait été appelé à siéger dans la commission chargée par le général König de mettre en place le Südwestfunk à Baden-Baden, créé pour la zone d'occupation française en Allemagne. Eh bien, ce jeune professeur est devenu l'éminent romaniste Charles Müller, que nous connaissons aujourd'hui, et qui va avoir 102 ans au mois de septembre. Au 2 septembre, et il est le tout dernier survivant des collaborateurs fixes ou occasionnels de la radio d'avant-guerre. Et je voulais par là quand même lui rendre hommage, et je crois que c'est... Et alors, en plus, je lui ai téléphoné il y a 2 ans, pour son anniversaire, et puis il m'a dit qu'il était en train de préparer, parce qu'entre-temps, il avait publié en 2002, ce siècle avait 2 ans, en 2002, il avait publié un ouvrage sur Victor Hugo, et il me raconte, il y a 2 ans, oui, mais je vais en préparer un nouveau, parce qu'il a eu des... à la Bibliothèque nationale, il a eu des échos, comme quoi on a découvert de nouveaux documents concernant le séjour de Victor Hugo à Strasbourg. Alors je ne sais pas maintenant où il en est et quels sont ses... Alors on va se laisser surprendre. Oui, 102 ans au mois de septembre, donc le tout dernier survivant des gens de la radio d'avant-guerre. Donc, fin de sa carrière de chroniqueur à Radio Strasbourg, en 1939, c'est la guerre, l'évacuation, y compris l'évacuation du personnel de la radio, donc plus d'émissions depuis Strasbourg, mais quelques programmes quand même qui ont été faits par des anciens qui se sont retrouvés à Paris, qui ont été diffusés, et il y a eu la diffusion également qui a été, paraît-il, très émouvante à l'époque de la messe de minuit depuis la cathédrale quasiment vide en 39. Donc c'était en 39. Décembre Noël 1939, il y a comme une messe de minuit à la cathédrale qui a été diffusée, puisque l'émetteur de Brumath fonctionnait toujours. Il n'a été détruit qu'en juin 1940. L'armée française, avant l'arrivée des troupes allemandes, avait donc dynamité l'émetteur de Brumath. Et ainsi, il n'y a plus d'émission directement pendant la guerre, pendant l'annexion. Et alors, assez curieusement, il y a eu de temps en temps des émissions faites ici, réalisées ici. D'ailleurs, l'ancienne loge maçonnique de la rue Joffre avait été réquisitionnée pour Radio Stuttgart. Et c'est là qu'ils avaient installé un studio et n'ont été finalement réalisées pratiquement que des émissions culturelles, des émissions littéraires ou musicales. Et je sais d'ailleurs qu'il y avait une des interprètes d'ailleurs qui figure ici, Félix Reusov, une théâtre alsacienne, elle qui avait participé une de reprise à une émission comme interprète là, pendant la guerre. Et elle m'a dit, il n'y a jamais eu vraiment d'émission à caractère politique. C'est assez curieux. C'était des émissions à caractère littéraire surtout qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, celui qui avait été, il s'appelait Coutre, qui avait été au fond le responsable du studio de Strasbourg, n'a pas eu de problème après-guerre. Il est même venu une première fois à Strasbourg en 50, et puis pour essayer de renouer, faire des échanges avec, parce qu'il est resté à Radio Stuttgart. Donc il n'y avait pas eu rien de politique à Strasbourg pendant la guerre. Et alors après, donc ça c'était la Brusoffre, et puis un an plus tard, en 46, alors il y a eu le déménagement avenue de la Marseillaise à la Villa Greiner, qui est maintenant devenue la Villa Hummer. D'ailleurs, je trouve que c'est assez symbolique parce que la radio après-guerre a démarré dans cette villa. En 1960, fin 1960, a été mis en service cette grande maison de la radio, place de Bordeaux. Et ça a été, finalement, on peut dire que de 45 jusqu'à 75, un peu, c'était les 30 glorieuses de notre radio, puisqu'il y a eu à ce moment-là le grand développement de toutes les émissions. Et puis, après, elle est revenue, la radio, quand il y a eu la séparation à partir de 90, elle est repartie dans une autre villa, en face de la Villa Greiner. Alors, c'est très symbolique, ce voyage d'une villa à l'autre, en passant par la grande maison construite place de Bordeaux. Et d'ailleurs, à Joffre est arrivé, alors en début 45, il y avait une mission Radio Strasbourg qui avait été créée à Paris, et d'ailleurs par Albert Ehm. Oui, Albert Ehm, qui était prof de philo, qui est ensuite devenu député maire de Célestat pendant de nombreuses années. Et c'est lui qui avait mis en place cette mission Radio Strasbourg, laquelle avait appartenu également Raymond Vogel, qui est devenu le partenaire de Germain Muller, et Martin Laëlic, entre autres, et Édouard Ludec, donc l'ancien d'avant 39. Et alors ils se sont mis au travail. Là, évidemment, il n'y avait pas tellement de possibilités au départ, et Martin Laëlic a été confié la succession au fond de Gustav Stoskov pour la mise en place des émissions alsaciennes. Et également, entre autres, il avait mis en route, d'ailleurs aussi avec Paul Sonnendrücker, qui lui aussi avait passé la guerre à Paris pour étudier. Tous les deux, ils avaient été à la Sorbonne, et c'est à la Sorbonne, d'ailleurs, qu'ils ont découvert, à la bibliothèque de la Sorbonne, qu'ils ont vraiment découvert les grands auteurs de la littérature alsacienne. Oui, et c'est là finalement que Alain Heilig a trouvé sa vocation, et puis Sonnendrücker également. Et Sonnendrücker également, et c'est en revenant donc qu'ils ont mis ça en place ensemble. Et alors il y a eu une des premières émissions, c'était à Port Minute Française, parce que pour les gens qui seraient apprendre un peu le français, alors ça c'était une émission qu'il avait faite avec Sonnendrücker précisément à l'année, qui passait je crois tous les jours et qui avait eu un grand succès, donc parce que surtout pour les jeunes générations à l'époque qui n'avaient pas appris le français pendant l'annexion, bien sûr. La formidité de l'Elsa, c'est voilà. Et puis alors, il y a eu donc la... Et les gens, finalement, les auditeurs avaient retrouvé, donc, à partir de 1945, le répertoire et aussi en partie les voix qui leur avaient été familières avant la guerre. Il y a eu donc des bulletins d'information d'Alsaciens. Les premiers d'ailleurs ont été faits parce qu'il n'y avait plus l'émetteur de Brunac ne fonctionnait, n'était pas encore reconstruit, donc il y avait des émetteurs provisoires et c'était en général. Et il y avait une équipe qui partait, moi je n'ai plus connu ça, je suis rentré qu'en 1947, mais de 1946. Mais de 1945 jusque début 1946 par là, jusque mi-1946, eh bien il y avait une camionnette émettrice de l'armée qui transportait les gens de la radio, donc techniciens et speakers, pour aller lire les informations dans les patelins et par haut-parleur, les informations étaient diffusées en alsacien et en français. Ça, c'était les temps héroïques, au fond, de la après-guerre. Il y a Pierre André, encore, qui lui était rentré en 1945 à la radio, a lu les informations dans ses camionnettes, et même Dina Faust. Même Dina Faust a... Oui, pas de Germain Müller. Et puisqu'évidemment, contrairement à la presse écrite, le bilinguisme franco-allemand ne devait plus avoir cours comme avant 1939. Et c'est d'ailleurs une situation que nous avons été très nombreux à déplorer, dans ma génération en particulier, parce que nous avions été marqués, traumatisés par le diktat nazi nous interdisant de parler le français, etc. Qui était le machin, parce que je sais moi-même, j'étais pour la guerre à Colmar à plusieurs reprises avec des copains. Ben, on a été appelé au commissariat de police, il rappelait la française, je suis pas en Autostrasse. Alors, entre nous, évidemment, on continue à parler français. Alors, on avait été tellement traumatisés par ça qu'on n'a pas voulu que la même chose soit refaite après-guerre, donc vis-à-vis de l'allemand, puisqu'il fallait quand même, on ne pouvait pas renier notre héritage linguistique et culturel germanique. Et puis la réhabilitation de la langue allemande s'imposait. Et ça finit d'ailleurs par se faire assez rapidement quand même, en 1950, comme ça avait été dit tout à l'heure par François, mais on avait fait une première étape en août 1949 pour le bicentenaire de la naissance de Goethe. Et là, on avait Martin Heilig et moi-même, on a composé, on a rédigé une évocation d'une heure avec un texte un texte en alsacien, alors avec des passages de Dichtung und Wahrheit, avec les Friedrichenlieder en allemand bien sûr, une scène en français que Martin avait imaginé parce que Goethe avait eu un maître à danser qui était parisien. Et il avait flirté avec une des filles de ce maître à danser, puis il avait, comme Goethe parlait le français aussi, donc ça avait assez bien marché, paraît-il. Et puis, donc, il a imaginé cette scène en français. Et alors, on a demandé à Mélie Schmitt, qui avait écrit beaucoup pour le théâtre alsacien, et également pour la radio, des Hörspiel. Elle a fait alors un certain nombre de dialogues entre Frédéric et Goethe. Alors, elle parlant l'alsacien et Goethe parlant l'allemand. Donc, alors, évidemment, on était un peu curieux des réactions. On s'est dit, va-t-il y avoir comme réaction? Eh bien, il y a eu énormément de lettres qui sont arrivées et toutes les lettres étaient positives. Il n'y a pas eu de récrimination pour le fait qu'on ait entendu parler pour la première fois au niveau de l'allemand sur les ondes. Et quelques mois plus tard, donc, il y a eu le 10e anniversaire de la mort de René Schickele, début 50. Et alors là, les radios suisses, allemandes et autrichiennes préparaient des émissions commémoratives pour Schickele. Et alors Martin en a parlé à notre directeur régional, Pierre Cossideri, qui était un Toulousain et qui était il se disait occitan. Et il avait parfaitement compris la situation linguistique et culturelle de l'Alsace. Et il avait lui-même, à plusieurs reprises, demandé qu'on rétablisse les bulletins d'information en langue allemande. Et ça a été refusé à plusieurs reprises. Et alors là, lorsque Martin lui a parlé de cette... Il lui a expliqué qui était Schickele, etc. Alors il dit, bon non, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et bien il a réussi à avoir l'autorisation de la direction à Paris de diffuser un certain nombre d'émissions donc sur Schickele, donc en langue allemande, puisque à part le retour, Schickele avait écrit en allemand. Et en même temps, il y a eu les informations ont suivi et à nouveau eu les informations en langue allemande. Et à partir de là, donc, les émissions bilingues, donc avec l'allemand, sont revenues dans le programme. Et ça, les programmes culturels bilingues sur Strasbourg, c'était... À l'époque, nous avions deux émetteurs à onde moyenne, un sur 2,50 sur 2,59 mètres et l'autre sur 2,35, celui qui existe toujours. Et puis les émissions bilingues étaient sur Strasbourg 2, entre 12h30 et 13h, avec bulletin d'information en langue allemande. Et alors il y avait une émission culturelle alternativement une émission culturelle en allemand, une en français, une en allemand. Et ensuite, le jeudi, il y avait une émission israélite. Et le samedi, il y avait une émission alternativement protestante ou catholique. Voilà. Alors donc, il y avait aussi bien la réconciliation linguistique que confessionnelle sur les antennes. Et... bonne cohabitation. Et puis, quant aux émissions en dialecte, alors elles étaient diffusées sur Strasbourg 1, sur onde moyenne toujours, et ensuite, plus tard, lorsque la modulation de fréquence est venue, c'était sur modulation de fréquence, et elles furent bien sûr bien étoffées, Elle comprend des émissions de variété, des œuvres dramatiques et radiophoniques, des magazines consacrés aux arts populaires et à la littérature. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von den Sendungen, wo gemacht worden sind. Man hat so öffentliche Sendungen gemacht, ein bisschen überall, nicht nur in Straßburg, aber man, im ganzen Land sind wir rum mit so im oberen Sens, im unteren Sens, mit Soirées politiques et musicales, mit Emissions de Variété, avec des comédiens maison et quelques musiciens et chanteurs, etc. Et alors, l'idée de Martin Leilig, à un moment donné aussi, il s'était rendu compte que les... Et ça, c'est Karl Reiss, le compositeur Karl Reiss, qui travaillait aussi un peu encore à la radio. Il était déjà retraité à l'époque, mais il s'occupait du classement. Et il lui a fait part qu'effectivement, les sociétés chorales, à l'époque manquaient de répertoire vraiment alsacien. Parce qu'on se tourne en dehors du Hansenschnurgelor et le Feirle, mais es gibt zu viel alte Volkslieder, wo vergesse sing sind. Und Karl Reiss, sind die Volkslieder wieder aufgekommen. Et là, Martin a eu l'idée, il s'est dit au fond, il faudrait essayer de les faire imprimer, de les diffuser. Et c'est là qu'il a créé cette association Jean-Baptiste Beckerlin. Jean-Baptiste Beckerlin, d'après le nom de Beckerlin, qui était de Guebwiller et qui avait été bibliothécaire à Paris, au Conservatoire de Paris au 19e, et qui avait collectionné de nombreuses chansons populaires de toutes les provinces, y compris l'Alsace. Et c'est là-dedans aussi qu'ont été puisées, dans la collection Beckerlin, qu'ont été puisées un grand nombre de chansons. Et c'est donc après lui que l'association a été nommée, avec le siège place de Bordeaux, puisqu'elle a été créée en 1960, et ont été imprimés et diffusés une dizaine de recueils, de cahiers de chansons qui ont été des sociétés chorales de toute l'Alsace en ont acheté. Et puis à partir de 62, la petite anthologie de la poésie alsacienne, donc avec certains thèmes, et chaque fois les poèmes en alsacien avec la traduction en français, puisqu'on s'est dit finalement, beaucoup de gens, même qui parlent l'alsacien, ont des difficultés à lire, et ensuite les gens qui ne parlent pas l'alsacien auront l'occasion ainsi quand même de voir qu'on peut écrire des choses sensées et poétiques dans notre langue alsacienne. Et là, il y a eu la collection des recueils de poèmes. Il y en a eu une dizaine aussi. Premier en 62, le dernier recueil, c'était Claude Vigée. C'était Claude Vigée aussi, donc une drôle fille en français, en alsacien et avec sa traduction en français. Et on a quand même réussi à notre association, on a quand même placé environ 30 000 recueils.
Pour les collections de chansons.
De chansons et de poésie. Poésie aussi.
Mais ces chansons, mais tout ça on peut encore le trouver?
Pardon?
L'anthologie de la poésie, ça j'en ai vu, il y en a peut-être ici, il y en a
qui. Oui, je ne sais pas si vous en avez encore.
Mais les chants pour les chorales.
Les chants pour les chorales.
Mais est-ce que c'est possible?
Non.
Est-ce qu'il y en a encore quelque part?
Ah, j'avais mis la gueule sur la bibliothèque, si. Il y a encore Armand Pétor, on a encore dans la... Non, je vous ai pris deux, c'est ça. Voilà, j'ai pris un exemplaire de ça, par exemple, chanson populaire, ça c'était numéro 4. Et ce qui est intéressant, dans celui-là, là il y a quelques chansons... Oui, quelques-unes aussi qui ont été recueillies par Goethe quand il était en Alsace. Ballade recueillie en Alsace par Johann Wolfgang Goethe.
71.
Oui, en 1771. Il y a ça, je ne sais pas si je vais faire circuler. Alors ça, et ensuite ça c'est là. Ça c'est les. Ça ce sont les recueils de poésie. Et là, nous allons, bon, comme dit, il y a eu. Le premier recueil, c'était Noël en 62. On l'avait fait imprimer chez Saône à Saverne. Il n'existe plus. L'imprimerie Saône. Et on a dit, bon, 500 exemplaires. Alors, M. Saône nous dit, Ehre, mort de ici. Es kostet sich nicht viel mehr und weiß nicht. Ah ben, il avait raison. Un an après, il a fallu refaire une réédition. On a fait 3 rééditions du premier recueil, également de celui-là. Ça, c'est la 3e édition aussi. Ça, c'est Mød und Kind, la mère et l'enfant. Et alors, ça, c'était.
C'est 1832.
Oui, ça, c'est à chaque fois. Et là, ça, avec des illustrations de Camille Claus. Là, ça c'est un exemplaire personnel, là, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'avais marqué quelque chose. Oui. Oui, ça c'est. Voilà.
Elle a disparu, l'association ?
Alors, elle est toujours inscrite au tribunal, mais enfin finalement, elle n'existe plus. Elle n'est plus active, et puis d'ailleurs, c'est Armand a repris tout le stock, et puis il a chez lui, je pense, Oberlin en prend aussi, encore de temps en temps, et puis enfin, Armand on a dans sa rue Sainte-Hélène, enfin, tous les exemplaires, il y a un certain nombre d'exemplaires, de recueils qui sont épuisés.
Il faut faire une puce, le 19, il faut faire une brocante.
Oui, dans des brocantes éventuellement.
Faire le livre le 18 et 19.
Voilà. Et on a encore fait au livre. L'édition sage ici est à Montpellier, c'est au livre. C'est le fait.
Non, ça a été effectivement. Ça a été effectivement un grand succès. On ne s'y attendait pas. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de publications. Et pas tellement de publications poétiques à l'époque. Et puis les gens, finalement, je pense que beaucoup de gens qui avaient écouté nos émissions poétiques à la radio, lorsqu'ils ont vu les exemplaires également, ils les ont achetés. Donc ça a été une opération qui était réussie, et je pense qu'on peut dire que ce résultat, finalement, avec ce résultat, on peut prétendre que l'action de la radio et avec l'association Vetterlin, donc en faveur des lettres en Alsace, a certainement été un des déclics, avec d'autres comme l'action du Schickele-Verein, un déclic donc pour la prise de conscience. Également par de nombreux universitaires de la personnalité culturelle et littéraire de l'Alsacien, de l'Alsace. Parce que sur le plan universitaire, bon, nous avons eu des gens comme Max Sen, comme Adrien Fick, surtout, évidemment, après, qui sont vraiment...
C'est ça qui lui a donné la motivation.
C'est ça. Oui, parce que je sais, Adrien nous l'a... a dit plusieurs fois, il dit, ben vous avez donné l'impulsion avec le cercle Schickele également, Et alors pour eux, après, ils ont suivi parce que finalement, il n'y avait eu que les frères Matisse qui avaient eu droit à l'université à par le professeur Schlachtenhoff, qui avait donc fait en 1930, il avait fait une deuxième thèse sur les frères Matisse. Et oui, sur la langue des frères Matisse, c'était le titre de sa thèse. Et alors lui, il était devenu en plus le légataire littéraire des frères Matisse. Et il a donc, et lorsque nous avons publié l'anthologie, on voulait absolument, naturellement, mettre des textes des frères Matisse. Et il a pris contact avec le professeur Schlachtenhoff, et quand il a entendu qu'on voulait faire donc l'original avec une traduction, ah non, il a mis son veto, et on n'a jamais pu le mettre. Et le seul qui a eu, il y a eu ensuite une publique, les Saisons d'Alsace, a sorti en 1974, je crois, c'était un recueil, un numéro spécial sur les frères Matisse. Mm-hmm. Et là, Matz, sans rien dire à Schlachtenhoff, a fait un des papiers où il a traduit à peu près une douzaine de poèmes des frères Matisse en français, dans ce Saison d'Alsace.
Le professeur Schlachtenhoff ne voulait pas qu'il y ait de traduction en français, ou il ne voulait pas que...
Non, il ne voulait pas des traductions en français.
Ouais.
Parce qu'il dit, voilà, la langue des Matisse, elle va être falsifiée et tout. Mm-hmm. Évidemment, une traduction, déjà, il y a quand même... Pour un public non dialectophone, c'était quand même intéressant de voir. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a eu après... Après, il n'était plus de ce monde, mais lorsque Gaston Jung a fait la traduction, a traduit le Barmholz, il y a quelques années, en français, et c'était pas mal fait d'ailleurs, mais ces traductions n'étaient pas absolument inutiles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui après se sont tournés vers la littérature, vers d'autres.